Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La contestation s'organise après le passage en force du gouvernement pour faire adopter la réforme des retraites. L'exécutif qui a utilisé le 49.3, un article qui permet d'adopter le texte sans vote. Les syndicats ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain. Ils appellent aussi ce week-end à des rassemblements syndicaux de proximité. Cette décision de l'exécutif suscite la colère des oppositions. Nous écouterons les députés LFI, François Ruffin et Éric Coquerel. Un raid militaire israélien à Jenin en Cisjordanie occupée, 4 Palestiniens ont été tués. Remaniement ministériel en Algérie, le président algérien a notamment nommé un nouveau ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, succède à Ramtam Latamra. Le collectif Handicap entend participer au débat sur l'accompagnement de la fin de vie. Il souhaite faire entendre la voix des personnes handicapées. Marie-Christine Tesna, présidente du groupe Polyhandicap France et membre du comité exécutif du collectif Handicap, sera l'une de nos invitées. Un passage en force qui accentue la mobilisation des syndicats. Plusieurs mouvements de contestation ont déjà eu lieu depuis que l'exécutif a utilisé l'article 49.3 pour faire adopter sans vote la réforme des retraites. Une partie du périphérique parisien a été bloquée ce matin. 310 personnes ont été interpellées hier, dont 258 à Paris lors de manifestations. En Normandie, la CGT a annoncé l'arrêt de la raffinerie Total Energy dès ce week-end. Plusieurs groupes parlementaires annoncent déposer une motion de censure contre le gouvernement. Motion discutée 48 heures après leur dépôt. Ce sera donc lundi prochain pour être adoptée. Une motion de censure doit réunir les voix de la majorité absolue des députés. François Ruffin, député LFI de la Somme, a exprimé sa colère hier après ce 49.3. Il évoque notamment les manifestations dans les petites villes de sa circonscription. François Ruffin.
Qu'est-ce qui s'est passé? On a un président de la République qui est élu sans élan, sans enthousiasme. Derrière, il y a une majorité de raccrocs à l'Assemblée nationale. Ça aurait dû l'inviter à la prudence, à la modération, à la pondération, même, je dirais, à la tendresse vis-à-vis des Français qui ont traversé la crise Covid, qui ont traversé la guerre en Ukraine avec les factures d'énergie qui explosent, qu'on se demande comment on va pouvoir payer son plein, comment on va pouvoir remplir son frigo. Voilà où en sont les Français. Et on a un président de la République qui, malgré sa faiblesse dans le pays, décide de passer en force contre 3 Français sur 4, 4 salariés sur 5, tous les syndicats unis, des manifestations à des millions de personnes, c'est pas tenable. Voilà la crise qui est en jeu, bien au-delà de Mme Borne, dont on sait très bien qu'elle fait ce que le président de la République lui a demandé de faire. J'alerte sur une déchirure entre la France des métropoles, la France parisienne, la France qui va bien, la France de Macron et le pays profond. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de base sociale, parce qu'ils n'ont pas de base politique forte pour mener cette réforme et plus généralement pour mener une politique. Donc qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste, comme ils n'arrivent pas à diriger le pays, il leur reste la force de coercition, c'est-à-dire d'envoyer la police avec des gaz lacrymogènes sur les piquets ou de venir tordre le bras aux députés comme ça se passe aujourd'hui.
Quel a été le rôle des manifestants et des grévistes dans ce 49.3 que vous considérez comme une défaite pour Emmanuel Macron?
Il y a le rôle des manifestants qui sont aussi allés les uns devant les autres, devant des permanences des députés, pour dire voilà ce qui se passe. Donc là, il y a un rôle majeur qui est de venir exprimer une colère dans la rue, montrer qu'il y a quelque chose qui tient, que ce n'est pas seulement des sondages, que c'est quelque chose qui est puissamment ancré. C'est parce qu'on voit les grosses manifs dans les métropoles. Moi, j'alerte sur le fait que, je vous le redis, à Nesle, à Ham, à Friville-Escarbotin, à Péronne, à Albert, dans des bleds dont vous connaissez peut-être pas le nom, eh ben, on a vu des manifestations, on a vu des gens qui ne sont pas contents. Moi, j'ai vu à Abbeville des ronds-points tenus par des artisans du bâtiment qui disent « Mais attendez, pour nous, pour nos salariés, 2 ans de plus, c'est pas possible. Moi, j'ai 53 ans, me disent les gars. Regardez, j'arrive pas à lever mes bras comme ça, plus que ça, parce que à force de couler du béton, eh ben, c'est dur. Et c'est un patron, un petit patron qui vient vous dire ça. Vous avez eu des patrons de l'hôtellerie qui sont venus lancer l'alerte. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a un Emmanuel Macron qui a pas du tout de racines dans le pays réel. La Macronie n'a pas d'alerte, de nerfs plantés dans la société pour lui dire stop. Et donc, elle vole par-dessus ça, en start-up nation. Et ben, il y a des moments où ça casse. Et on est dans un jour où ça casse. On est dans un jour où le coyote de Tex Avery se rend compte qu'il a dépassé la falaise, qu'il est dans le vide, et pff, là, c'est la chute, c'est le vide.
François Ruffin, député LFI de la Somme, il répondait à Loïc Barrière. Je vous propose à présent d'écouter le député président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel.
C'est une défaite de M. Macron et du gouvernement. Terrible. C'est un aveu d'échec terrible. C'est un coup de force démocratique, ça c'est sûr, mais c'est aussi un aveu d'échec parce que ça veut dire qu'il n'est pas majoritaire dans le peuple, il n'est pas majoritaire à l'Assemblée. Bon, ça devient difficile de faire passer un projet de loi dans ces conditions et je pense que ce manque de légitimité va laisser des traces profondes et à mon avis, on n'est qu'au début de la crise politique.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire au mouvement syndical ?
Je crois que j'ai rien à lui dire parce que ce que je sais du mouvement syndical, c'est que s'il y avait 49-3, ça allait donner un regain aux mobilisations jusqu'à la victoire totale. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer. Et nous, de notre côté, on va faire notre boulot. On va déposer une motion de censure avec le groupe IOT, la NUPES. Donc voilà, on va faire un recours au Conseil constitutionnel qui, à mon avis, peut bien être plus enclin à l'écouter à partir du moment où il n'y aura pas eu de vote à l'Assemblée. Et puis troisièmement, on va aussi déposer dans les heures à venir un RIP, un référendum d'initiative populaire, qui va permettre de toute façon de bloquer le texte pendant 9 mois, l'application. Donc tout ça fait qu'on est, on rentre dans une période où je ne vois pas comment tout ça pourrait être maintenu. Quoi.
C'est une crise de régime pour vous ?
C'est une crise politique sur fond de crise de régime, ça c'est sûr. C'est à mon avis, il n'y a pas de démocratie parlementaire comparable à la nôtre dans laquelle on peut accepter de faire passer un budget sans vote, une loi de cette importance sans vote, et de tout ramener à l'Élysée qui décide de tout. Bon voilà, c'est juste intenable et je pense que c'est... Il est plus que temps de passer à une autre république.
La dissolution, c'est une option pour vous ?
Ça peut l'être, mais ça, c'est au chef de l'État de décider. Moi, pour l'instant, je dirais que ce qui n'est pas légitime, c'est moins l'Assemblée que le gouvernement et le chef de l'État, ou en tout cas leur politique.
Le député LFI, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, des propos recueillis par Loïc Barrière. 4 Palestiniens, dont un adolescent, ont été tués par des tirs israéliens hier à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Une annonce du ministère de la Santé palestinien. L'armée israélienne dit avoir neutralisé 2 suspects recherchés pour activités terroristes. Selon ses mots, 23 personnes blessées ont été hospitalisées au cours de cette incursion. Un remaniement ministériel en Algérie. Le président algérien a nommé hier un nouveau ministre des Affaires étrangères. Ahmed Attaf succède à Ramtane Lamamra. Diplomate de carrière, il retrouve un ministère qu'il avait dirigé entre 1996 et 1999. Ce remaniement concerne 11 ministères, dont celui des finances où le directeur du budget, l'Aziz Fayed, succède à Brahim Jamel Kessali. Au ministère du commerce, Kamel Rezigd est remplacé par Tayeb Zitouni, ancien maire d'Alger et PDG de la société des foires et salons Safex. Les États-Unis, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni appellent à ce que justice soit faite en Syrie. Un appel suite à la rencontre à Moscou entre le président russe Vladimir Poutine et Bachar al-Assad. La communauté internationale se doit d'œuvrer ensemble afin que le régime d'Assad et tous les auteurs d'abus, de violations, d'atrocités rendent des comptes. Un texte diffusé par ces 4 pays à l'occasion du 12e anniversaire des premières manifestations contre le régime du président Bachar al-Assad en 2011. La guerre a fait plus de 500 000 morts, plusieurs millions de déplacés et une profonde crise économique et humanitaire. Le collectif Handicap entend participer au débat sur l'accompagnement de la fin de vie. Il souhaite faire entendre la voix des personnes handicapées, notamment auprès de toutes les instances qui réfléchissent actuellement à ces questions. Objectif, améliorer la loi et surtout les pratiques en matière de soins palliatifs et d'accompagnement. Entretien avec Marie-Christine Tesna, présidente du groupe Polyhandicap France et membre du comité exécutif du collectif Handicap. Marie-Christine Tesna.
Pour ce qui concerne effectivement la place des personnes handicapées, il faut distinguer plusieurs choses, si vous voulez. D'abord, dans cette loi sur la fin de vie, ce qui agite beaucoup, notamment la Convention citoyenne, c'est l'aide active à mourir, qu'on peut appeler autrement par suicide assisté. Pour la personne qui ne peut pas le faire pour des raisons physiques elle-même, elle demande une assistance, elle demande qu'on lui donne le produit qui mettra fin à ses jours. Très bien. Ça, c'est une chose sur laquelle nous allons nous trouver vraiment dans le droit commun, mais ça ne concerne que les personnes qui sont aptes à décider elles-mêmes. Je veux dire par là que si vous avez un handicap, par exemple moteur, mettons que vous soyez en fauteuil, que vous soyez paraplégique, vous voyez, ça n'altère en rien vos capacités cognitives, Donc, on peut vous accompagner, vous proposer une assistance psychologique, enfin, vous proposer tout ce qu'on propose à des personnes à tendance suicidaire, mais ça n'altère en rien votre décision qui est la vôtre. En revanche, quand votre handicap dépasse le cadre du handicap moteur, du handicap sensoriel, quand il y a une altération des facultés cognitives, ça devient tout à fait autre chose, parce que les personnes ne sont pas forcément aptes à prendre la décision pour elles-mêmes, parce que c'est déjà très compliqué pour une personne qui a toutes ses facultés, on va dire. C'est encore plus compliqué de se représenter la situation pour une personne qui n'a pas ses facultés cognitives vraiment qui lui permettent de prendre une décision et qui, de surcroît, ne peuvent pas l'exprimer. Et là, vous avez déjà des personnes qui se retrouvent dans ces situations-là en ayant une vie ordinaire, mettons, d'une personne qui serait victime d'un accident de la route, si vous voulez, mais qui dirait et qui se retrouverait avec ce qu'on appelle un traumatisme crânien, effectivement, qui l'empêcherait de prendre une décision, de communiquer, etc. Ou que ce soit une personne dans une situation, par exemple, de polyhandicap, qui n'a jamais pu en décider et qui n'a jamais pu communiquer, ben là, vous êtes dans un domaine qui est infiniment délicat, qui est celui de la décision pour autrui. Et si vous voulez, autant au collectif handicap, comme au groupe Polyhandicap France d'ailleurs, on estime que la décision pour soi-même relève du droit commun. En revanche, il faut vraiment être extraordinairement vigilant quand on tombe dans la décision pour autrui. Et la première question qui se pose, c'est attention, qui est-ce qui décide et en fonction de quoi ? Et dans ces situations qui sont souvent des situations de handicap extrêmement lourds, pour ces personnes-là, on est souvent victime de préjugés. C'est-à-dire des gens qui disent « moi, à sa place, je voudrais pas ». Ce sont des choses que j'ai entendues, si vous voulez. Il faut pas laisser vivre ces gens-là, ces enfants-là. Je l'ai entendu pour mon propre fils, qui est toujours plaisant. Et puis, vous avez aussi, malheureusement, c'est malheureusement la réalité, vous avez les contraintes économiques. Alors, on vous jure que non, que bien sûr, que les personnes handicapées, même très lourdement, sont soignées comme les autres. Ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que, pour plusieurs raisons, la première, c'est que vous voyez bien la situation de l'hôpital. En ce moment, la question est particulièrement grave, on va dire. Il manque des lits, les lits de réanimation, ça coûte cher. Quel est le prix d'une vie humaine en fonction de quoi? Et la seconde chose, c'est de dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est... Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans l'acharnement thérapeutique, il ne faut pas vivre à tout prix dans n'importe quelle condition, mais il est vrai que là, ce sont vraiment des situations où tout ce qu'on appelle les soins palliatifs, l'attente, parce qu'il y a des personnes, effectivement, notamment les personnes qui ont eu des accidents, qui peuvent voir une amélioration de leur situation. Et puis, vous avez aussi d'autres cas. Par exemple, pour le polyhandicap, vous avez parfois des décompensations extrêmement brutales, extrêmement violentes, où vous vous dites c'est la fin, et pas du tout. Vous voyez des personnes dont on a annoncé un pronostic absolument fin de vie, et qui, deux mois après, ont repris leur état antérieur et sont parfaitement satisfaits apparemment de la vie qu'elles mènent, même si ce n'est pas la vie que vous et moi nous menons, et que ça se passe une vie qui paraît difficile.
Et vous nous dites donc qu'il faut protéger ces personnes de décisions qui pourraient être précipitées.
Oui, il faut savoir qui prend la décision. C'est ça qui me paraît extrêmement important. Je pense qu'on a dit, enfin, dans la version actuelle de la loi Kessler-Leonetti, normalement la décision appartient à un collège de médecins après avoir pris l'avis de la famille. Bon, sauf que qu'est-ce qu'on fait si la famille dit « attendez, non ». Moi, je le connais, je l'ai déjà vu dans des états comme ça très dangereux. Il faut sursoir, donner-lui une chance. Enfin, il y a des décisions très brutales, très rapides. Moi, j'ai entendu de mes propres oreilles, ben non, on ne prend pas cette personne en réanimation parce qu'elle va prendre la place de quelqu'un d'autre. Sous-entendu, On va sauver plutôt une personne qui va bien qu'une jeune fille handicapée. C'est juste insupportable. Et donc ça, c'est faute de lit. Et nous pensons vraiment que la vie de la famille, ça doit peser dans la décision. Si la famille dit, écoutez, je m'en remets à vous, je ne me rends pas compte de la gravité de la situation, ben vous avez sûrement raison, faites comme vous croyez, très bien, il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est si la famille dit, ben non, attendez, non, nous on n'est pas sûr que ce soit si grave. Oui, c'est une personne qui est heureuse de vivre, contrairement à ce que vous vous imaginez. Oui, il faut faire un effort supplémentaire. Oui, il faut la remettre en soins palliatifs. Oui, c'est vraiment, il faut faire quelque chose. Et là, quel est le recours de la famille? Ben, effectivement, vous pensez bien que dans ces situations-là, la famille n'est pas en mesure, ou alors il faut vraiment une force absolument incroyable d'engager une procédure judiciaire, parce qu'elle est totalement anéantie par ce qui arrive à son proche. Donc il faudrait pouvoir sursoir. Il faudrait en tout cas ne pas dire tout de suite « on va faire comme ci, on va faire comme ça ». Quelquefois, ce sont des décisions de dire « il faut arrêter les soins », ce sont des décisions qui sont justifiées. Mais ce n'est pas forcément le cas. Il faut vraiment savoir ce qui motive la décision.
Et vous souhaitez aujourd'hui être entendu, notamment par l'exécutif?
Oui, je pense que c'est vraiment important. Je pense que, vous savez, on dit la fin de vie comme si c'était un cas général. Chaque vie est unique, donc chaque fin de vie est unique. Et c'est donc extrêmement difficile de légiférer dans ce genre de choses, parce qu'on ne peut pas faire une protocolisation rapide en disant tel cas c'est comme ça, tel truc c'est comme ça. C'est juste impossible. On est dans l'humain, on n'est pas dans le numérique. Et donc, il me semble qu'il faudrait vraiment que la famille puisse dire « Non, attendez, halte là, c'est pas possible ». Et pour ça, il faudrait effectivement aussi beaucoup qu'on ait un développement des soins palliatifs qui sont vraiment quelque chose d'extrêmement précieux pour tout le monde, autant sur le plan physique que sur le plan psychologique. C'est extrêmement important et c'est très, très, très insuffisant encore en France. Donc nous, nous appelons vraiment à développer ces soins palliatifs, en tout cas en termes de quantité, qui permettent aux gens une mort, j'allais dire, plus confortable. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est le terme que j'emploierais s'il s'agissait de ma propre famille.
Marie-Christine Tesna, présidente du groupe Polyhandicap France et membre du comité exécutif du collectif Handicap. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Il est précisément 12h18. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.